Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une semaine sur l'action. On se retrouve demain.
À demain.
Et aujourd'hui, on parle des modalités terroristes et des regards des sciences humaines et sociales sur le passage à l'acte terroriste et des influences que ça a. Ça commence. Je voudrais, et je peux peut-être parler au nom de l'équipe des Nouvelles Vagues, raconter que nous sommes absolument attentifs, d'une part à faire entendre des voix un peu plus rares ou des voix un peu plus jeunes que d'habitude à l'antenne, mais attentifs surtout à respecter dans la programmation des personnes qui parlent à ce micro une générale parité. Nous sommes d'autant plus attentifs quand nous décidons de traiter de thèmes comme celui qui nous occupera jusqu'à vendredi, qui arrive avec leur historique coloration genrée. Alors lorsque nous marquons la semaine dernière en grandes lettres rouges et velléda le mot « action » sur notre tableau, on se dit « attention, attention » que tous nos invités ne se trouvent pas être des hommes. Et tout attentif que nous fûmes, à l'exception d'une seule personne demain, c'est quasiment carton plein, ce sera une semaine d'action totalement masculine. Alors bien sûr, on pourra vous dire qu'on a essayé, qu'on a fait preuve de bonne volonté, mais quand même, ça méritait d'être souligné, car ça fait probablement sens. Il est 14h passé de 2 minutes, 1 minute, tout ça à la peau dure. Bienvenue à toutes et à tous dans les Nouvelles Vagues. Au rang des nouveautés de cette rentrée, car on y est encore un peu, la rubrique de fin d'émission s'appelle 5 fois. Un invité fil rouge s'empare selon sa sensibilité de notre thème de la semaine et raconte 5 petites histoires qui y sont liées. Alice Ramon a rencontré en fin de semaine dernière Patrice Lair, actuel entraîneur du club PSG féminin. La première action mémorable dont il se souvient, c'est un pénalty manqué.
Dans le succès, tout le monde est derrière vous. Et quand vous êtes dans la défaite ou sur un geste loupé comme celui-ci, on se retrouve un petit peu seul parce que les gens vous regardent et on a l'impression d'avoir fait une catastrophe alors que c'est qu'un moment de football.
Un moment de football, seulement ça, et c'est ce que lui rappellera son entraîneur de l'époque qui console le jeune joueur à point nommé. Récit vers 14h50. Premier moment de ce chantier thématique consacré à l'action. Peut-être devrons-nous commencer dès aujourd'hui par dissocier l'action de l'acte et même l'acte du passage à l'acte. Des précautions de vocabulaire qui sont aussi essentielles dans le travail que mènent différents champs des sciences humaines et sociales pour penser les modalités terroristes du passage à l'acte violent. Car il apparaît évident qu'en plus de l'effroi, de la colère, de la tristesse qui accompagne ces dernières années l'annonce des actes terroristes ou des départs entre guillemets pour le djihad, une difficulté à penser ces actes est prégnante. Faisons dès le départ l'économie des explications hâtives et des hypothèses d'experts précipitées en plateau télé. On gagne du temps et de l'énergie et c'est précisément ce dont ont besoin les chercheurs, les acteurs de terrain, les familles pour comprendre. Comment le regard posé par ces sciences humaines et sociales influe-t-il par exemple sur les politiques de prévention et d'éducation? On peut commencer par cette question, il y en aura d'autres. David Puyot, vous êtes chercheur postdoctoral en anthropologie, vous êtes formateur en travail social à l'IRTS Poitou-Charentes. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de l'invitation.
Avec plaisir. Et Alain Lefkovitch, vous êtes documentariste. Vous avez signé pour la série documentaire LSD sur France Culture 4 épisodes sous le titre « De la radicalisation au djihadisme, chronique intime d'un fiasco républicain ». Et pour ça, vous avez rencontré des éducateurs, des familles, des psychologues, des psychanalystes, des jeunes gens. Cette riche série est à réécouter et à partager. Bonjour Alain.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors peut-être on peut commencer par le point de départ de ce travail que j'imagine long travail, un travail à long terme pour donner lieu à ces 4 épisodes documentaires. Est-ce que ça part d'une interrogation, d'une incompréhension, d'un mystère autour du passage à l'acte, de ces passages à l'acte?
En fait, le déclencheur, ça a été bien évidemment les attentats du 13 novembre 2015, mais avant, il y avait eu d'autres attentats. Il y avait eu Charlie, puis avant, il y avait eu l'affaire Mera. Et finalement, ces attentats du 13 novembre ont provoqué certainement un déclic qui a fait que je me suis demandé qu'est-ce qui poussait des jeunes Français d'abord à partir faire le djihad, et puis qu'est-ce qui poussait des jeunes Français à passer à l'acte et à poser des bombes et à se faire exploser chez eux en France. Voilà, ça a été le point de départ, c'est qu'est-ce que notre société fabrique ou ne fabrique pas pour qu'aujourd'hui un certain nombre de jeunes n'aient pour seul avenir que le passage à l'acte ou que le départ vers le djihad en Syrie.
Et c'est pour ça que ça s'appelle chroniques intimes, c'est parce que ça vient interroger quelque chose qui est personnelle comme incompréhension face à ces actes-là ?
Alors en fait, ça va être un petit peu grossier ce que je vais dire, mais on entendait le monde selon Olivier Roy, le monde selon Mohamed Sifaoui et le monde selon un certain nombre d'autres mandarins.
Sur la chaîne ?
Sur la chaîne, sur tous les médias. Gilles Kepel, moi j'avais, alors je ne remets absolument pas en cause leur vision et leurs explications, mais moi j'avais plutôt envie d'entendre à ce moment-là le monde selon Scheherazade, Zumurrud, Dunyarud, qui sont les personnages que j'ai été voir dans les quartiers qu'on appelle les territoires perdus de la République. J'ai été voir ces mères de famille, j'ai été voir les acteurs de terrain qui sont en contact quotidien avec les populations les plus fragiles de ces quartiers dits difficiles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé total entre leur expérience quotidienne de terrain depuis des années et la réponse institutionnelle apportée à toutes ces questions.
Et surtout, ce qu'on entend, c'est que l'incompréhension qui, au départ de ce travail documentaire, elle est absolument partagée par la globalité des acteurs qui sont entendus dans cette série-là, chacun à son échelle évidemment, mais le choc, le mystère qui préside à ce passage à l'acte-là, il m'a semblé qu'il était très répandu dans ce qu'on entendait.
Bah, il est évidemment, c'est mystérieux. D'abord, on n'a pas de recul parce que tous ceux qui sont passés à l'acte, ils sont morts.
Ils sont morts.
À part Abdeslam, tous les autres sont morts. Et effectivement, aujourd'hui, on se pose la question de cet interstice qu'il peut y avoir entre un phénomène de radicalisation avéré, identifié et confirmé à un passage à l'acte, et que ce soit les psychologues, les sociologues, les ethnologues, les psychanalystes, il y a encore cette espèce de no man's land qu'on n'arrive pas à expliquer entre une situation de radicalisation, parce que partir en Syrie, c'est pas faire du terrorisme, on n'en est pas encore au passage à l'acte. Le passage à l'acte, ça va être de prendre une ceinture d'explosifs et d'aller se faire sauter au milieu de la foule.
Même si c'est un acte de partir en Syrie.
Même si c'est un acte, mais c'est pas un acte de passage à l'acte où on va se faire sauter, etc. Donc ça, cette zone reste encore une zone assez sombre.
Est-ce que c'est aussi cette zone sombre d'incompréhension, alors peut-être liée à ces actes qu'on décrit là avec Alain, ou alors liée au crime de manière générale, qui préside à certaines de vos recherches, David Piot ?
Alors, moi, ça fait une deuxième année qu'en fait, je m'intéresse au lien entre savoir pratique et puis connaissance théorique. Alors, j'ai débuté ma carrière en master en ethnologie en étant éducateur spécialisé en parallèle, donc en prévention spécialisée exactement, dans un quartier populaire d'une ville de province. Et puis, donc, j'ai débuté en juillet 2005. Et en quelques mois après, on a eu des émeutes importantes au niveau national. Et à l'époque, je me suis interrogé entre ce que je pouvais voir en tant qu'éducateur et puis le lien entre le contexte géopolitique, politique locale, politique nationale. Et ça m'a tout de suite interpellé que le local était extrêmement lié à tout ce qui pouvait se passer au niveau national. Dans mon parcours, en fait, oui, j'étais confronté à des jeunes qui ont pu passer à l'acte et qui ont pu commettre aussi des actes violents. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est de savoir de revenir sur leur trajectoire sociale, leur parcours biographique. Autrement dit, on pourrait parler de disponibilité biographique. Comment un individu, à un moment donné, peut se projeter de manière plus ou moins consciente comme sujet violent. Et comment cet acte peut être relié à son parcours, à sa trajectoire, au sens des ressorts sociaux, psychologiques, historiques, religieux, mais pas que. Et donc, c'est comme ça que j'ai été amené à travailler pendant une dizaine d'années sur cette situation d'un jeune qui a commis un crime en 2007, dont j'ai été le témoin en tant qu'éducateur en cour d'assises en 2010. Et donc,
témoin au procès ou témoin du crime ?
Témoin au procès. Et donc, j'étais amené à raconter un peu sa trajectoire sociale, les événements traumatiques au niveau personnel qu'il avait pu vivre, ses relations avec d'autres jeunes à l'école, ses relations avec les services sociaux, dont il était suivi depuis l'âge de 4 ans par les services sociaux. Et puis en revenir aussi à l'histoire ouvrière du quartier, avec la déstructuration du tissu ouvrier, qui avait une influence sur cette troisième génération de jeunes dans ce quartier populaire. Et donc de lier la trajectoire sociale, la trajectoire également au niveau au niveau local, au niveau du quartier, de l'histoire, et puis de lier également tout le contexte national, ce qui pourrait se passer au niveau politique. Donc ça fera l'objet d'une publication à la découverte au mois dans les premiers mois de 2017, un ouvrage qui devrait s'appeler Un monstre humain, point d'interrogation. Et j'en appelle dans cet ouvrage, et c'est le lien avec la thématique d'aujourd'hui, à essayer de comprendre le parcours, la disponibilité biographique de ces sujets violents, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent être amenés à se projeter dans ce type de désir violent, quand on va le dire ça comme ça. Et puis aujourd'hui, moi, je m'intéresse pas spécifiquement à la radicalisation en elle-même, mais finalement de plus tôt, de quoi la radicalisation est-elle le nom? C'est ce qui m'intéresse, au sens de revenir sur la trajectoire sociale des individus qui peuvent être amenés à se projeter ou qui sont signalés en voie de radicalisation, mais également de voir un petit peu quel effet ça produit sur le terrain concrètement. Pour ça, depuis maintenant un an et demi, je mène un travail de terrain auprès de services sociaux, de centres sociaux également, pour essayer de voir en quoi les dispositifs, les nouveaux dispositifs liés aux événements de 2015 notamment...
D'accompagnement, de prévention, d'éducation, etc.
Oui, et en quoi ça transforme ces dispositifs et en quoi également ça remanie également les services sociaux sur le terrain. Mais également, on voit émerger aussi des nouvelles pratiques également liées à la prévention sociale et éducative des phénomènes de violence. Donc voilà.
On y reviendra d'ailleurs sur la manière dont justement toutes ces politiques-là, elles se modifient, peut-être aussi sur le constat que vous faites entendre à Alain dans la série documentaire, à savoir qu'elles ont peut-être mis un petit peu de temps à se modifier. Mais pour revenir sur l'hypothèse selon laquelle un acte violent trouve son origine dans un parcours de vie, dans une disponibilité biographique, dans du temps long, est-ce que vous avez l'impression que cette hypothèse, elle est mise à mal dans le discours ambiant quand il s'agit de décrypter les passages à l'acte terroriste?
C'est compliqué. Alors, je sais pas si on passera l'extrait tout à l'heure de Nicolas Sarkozy.
Non, parce qu'on s'est dit qu'on l'avait beaucoup entendu, mais vous pouvez le décrire.
Alors, en 2005, donc il y a eu le fameux racaille de Monsieur Sarkozy à l'époque, qui a eu une influence durable à mon avis dans les quartiers populaires, notamment en termes, on pourrait parler de moment objet, aux chances d'instauration d'une sémantique, on pourrait rappeler avec Beau et Pialou une sémantique guerrière, qui a également a eu des influences sur les dispositifs qui se sont mis en place, notamment suite aux émeutes. Donc il y a le racaille en fin octobre 2005, il y a les émeutes importantes en novembre 2005, et en 2007 on a la loi de la prévention des délinquances 2007 qui a eu une influence durable également sur les services sociaux de proximité. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme racaille...
Dans quel sens, selon vous, ça a eu une influence? Dans quel sens?
En termes, par exemple, pour des services de prévention spécialisés, où l'objectif principal est la protection de l'enfance, donc une enfance en danger. Il y a eu un focus sur la possibilité de l'enfant délinquant, et donc une hiérarchisation des priorités en termes de prévention de la délinquance par rapport à de la protection de l'enfance. Et je pense que dernièrement, avec les événements de 2015, on a également une focalisation sur une nouvelle figure, c'est plus la figure de la racaille, mais la figure du radical. Donc on est passé de la figure du délinquant, du jeune délinquant, potentiel délinquant, au potentiel criminel, voire même terroriste. Mais pour revenir tout à l'heure, le poids des mots, c'est important. Lorsque l'on prend l'étymologie du terme racaille, il nous renvoie dans toute l'histoire à un terme de mépris envers une population donnée, une frange de la population. Et lorsqu'on retrouve l'origine du terme, on retourne chez les Syriaques, et c'était une injure ultime pour signifier en crachant concrètement, et qui signifiait vraiment un mépris terrible envers une frange de la population. Donc le poids des mots. Et lorsqu'on prend aujourd'hui l'étymologie du terme radical, il nous renvoie à quelque chose qui appartient à la racine, qui part de la racine, qui concerne le principe premier fondamental qui est à l'origine d'une chose. Mais ça nous renvoie, comme le terme racaille, à la notion de racine et à la notion de race. Et là, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'avec le tournant sécuritaire de la fin des années 90, on a un renforcement de la question raciale dans notre pays, notamment pour traiter des problématiques de violence, au détriment malheureusement de la question sociale qui est pourtant au centre de tous ces services sociaux de proximité.
Lorsque Fred est parti, quelque temps après, j'ai essayé de discuter avec lui, d'essayer de comprendre. Et il me dit, il a caché, parce qu'il savait très bien qu'il fallait qu'il fasse attention, je regardais tout. J'étais une maman collée, je lâchais rien, donc il a dû prendre des précautions pour pas que je m'en aperçoive. Il connaissait très bien ma réaction, il aurait très bien compris que je n'adhère pas à ça. Non, il savait très bien ma réaction, il savait très bien... que s'il se convertissait, ou comment on dit, je ne sais pas, je veux pas savoir, pour moi c'est rien. Ça n'a aucune valeur, c'est pas une religion, pour moi on peut me dire ce qu'on veut, pour moi c'est une secte. On peut dire ce qu'on veut, je ne l'admettrai pas. Je n'ai rien vu aussi avec le recul. On voit de petits trucs, mais vraiment minimes. Par exemple, le soir de Noël, on était avec ma famille, on a fait un Noël tout à fait normal. Et à un moment donné, je passe devant les toilettes, il me demande une bouteille d'eau. Je ne comprenais pas, mais après, avec le recul, j'ai compris que c'était une manière de se laver quand ils allaient aux toilettes. Je ne savais pas, je ne connaissais pas, quoi. Je ne connaissais pas du tout, il n'avait jamais fait ça.
C'est un premier extrait de cette série documentaire, Alain Lefkovitch. Ici, on entend Michel, c'est la mère de Fred, qui est partie, alors on va dire, faire le djihad, selon l'expression qu'elle utilise et que lui aussi, manifestement, utilise. Elle parle de la manière dont elle disqualifie l'explication religieuse. Elle dit « je ne veux pas savoir, je veux chercher à comprendre, mais pour moi, c'est rien ». Vous avez la sensation que c'était partagé, justement, la manière dont l'explication religieuse peut être... pollue la tentative de compréhension?
Disons que l'explication religieuse de ce que j'ai pu entendre de la part de mes interlocuteurs est une partie de la réponse, mais elle ne saurait être la totalité de la réponse. Les spécialistes aujourd'hui établissent une liste de 300 critères possibles de radicalisation. Après, c'est la conjonction de certains d'entre eux qui font que telle ou telle personne va passer à l'acte. Après, la question religieuse, elle existe, mais elle n'est pas centrale. Ce qui ressort, au contraire, c'est que ce sont des problèmes socio-économiques, des problèmes, comme le disait David Puot tout à l'heure, l'histoire de ces individus. Je me souviens d'un directeur d'une des plus grandes mission locale de France qui disait les individus que j'ai devant moi tous les jours, ils m'aiment pas parce que je leur donne à manger, ils m'aiment parce que je les considère, parce que je leur donne une place, parce que je les regarde autrement, parce que je les regarde à l'égard, je les regarde comme je regarderais n'importe quel autre individu. Et donc ce qui ressort, c'est plus une islamisation, une confessionnalisation des problèmes socio-économiques et une sorte de islamisation de la radicalisation, et non pas le contraire.
D'ailleurs, il me semble que l'islamisation de la colère, c'est une expression que vous utilisez ou que vous citez, David Puot, dans des articles qui s'intéressent à cette question-là. Ça veut dire quoi? Ce serait une forme d'écran de fumée? Alors, bien sûr, on n'évacue pas complètement la question religieuse. Alain disait que ça faisait partie des nombreuses questions qui rentraient. Mais cependant, elle revient tout de même. Alors, quelle place lui donner?
Alors, c'est une question complexe. Dans tout ce que je peux, dans ce que faire en lien avec cette thématique, moi, pour moi, la question religieuse n'est pas à évacuer, mais par contre, elle est peut-être à relativiser dans certaines situations. On le voit bien sur le terrain, les jeunes qui sont déclarés en voie de radicalisation ou radicalisés, la plupart du temps, on ramène aux questions de la malaise identitaire, à l'adolescence, au remaniement narcissique envers eux-mêmes et envers le monde, et puis aux questions sociales finalement et économiques. Et puis, c'est sûr qu'alors, notamment Alain Berthaud qui évoque notamment une islamisation de la révolte radicale, et on n'a pas affaire non pas à une radicalisation islamiste, mais dans toutes les situations que moi j'ai pu rencontrer sur le terrain, ce qu'on repère à chaque fois, c'est un malaise identitaire, des ruptures, des difficultés familiales, des événements traumatiques subis dans la jeunesse de ces jeunes.
Des scolarités difficiles, vous vous rappelez aussi, quand vous faites la comparaison des profils.
Des décrochages précoces, avec également des ruptures scolaires qui s'enchaînent dans les années qui suivent, mais également quelque chose mis en perspective également par l'équipe du CPDSI avec Dounia Bouzard, c'est l'hypersensibilité. Par exemple, un gamin de 13 ans qui est sensible à la discrimination de son cousin qui a un léger handicap, un retard mental léger au collège, ou qui a un gamin de 12-13 ans qui est sensible au conflit israélo-palestinien.
Ou à l'horreur vécue en Syrie, c'est aussi quelque chose qui revient dans les propos de Michel qui parle de Fred, qui parle à Michel de la manière dont les civils sont traités, dont il voit des crimes d'enfants, dont il voit des crimes... C'est intéressant tout de même de voir que ce sont ces images d'ultra-violence qui parfois déclenchent des départs.
C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, les premières explications qui sont données au départ des premiers jeunes à partir de fin 2013-2014, c'est pour faire de l'humanitaire. C'est-à-dire qu'on va sauver les femmes et les enfants des atrocités commises par le régime de Bachar el-Assad. Et c'est pour ça qu'on s'engage pour faire le djihad. À aucun cas, à l'époque, on est conscient que l'humanitaire, c'est pas trop ce qu'on va faire sur place. Et Michel, petit à petit, va s'en rendre compte. Elle va solliciter Fred en lui disant: regarde, les Syriens partent de chez eux, c'est à cause de vous, ces pauvres Syriens sont obligés d'arriver en France, c'est vous qui les avez chassés de leur pays. Mais au départ, on ne le savait pas. Bon, en tout cas, il y avait des raisons d'y croire.
Donc il y a cette sensibilité-là à une situation qui est lointaine, mais qui ferait quoi comme un choc, David Pivot, qui ferait comme une sorte de... La psychanalyse va penser ces choses-là, hein, la manière dont des images violentes vont venir complètement fissurer un parcours de vie qui est déjà pas extrêmement solide.
En tout cas, on peut parler de failles identitaires qui permettent d'être sensibles à certains discours, à certaines idéologies. On parle de religion ici, de radicalisation islamiste, mais on pourrait parler aussi de sensibilité à des mouvements, par exemple, style génération identitaire, des mouvements d'extrême droite. On pourrait parler de sensibilité également, par exemple, à des mouvements d'extrême gauche, je ne sais pas, des conduites toxicomaniaques aussi, de la violence envers autrui. Enfin,
envers
soi, des radicalisations, en fait, il faut parler des radicalisations au pluriel. Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que effectivement, il est compliqué de travailler auprès de ces jeunes qui l'ont dit sous l'emprise, endoctrinés, ou alors, pour le dire autrement, comme le dit un collègue, il parle de jeunes harponnés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment on peut lier savoir pratique et connaissances théoriques en termes de prévention sociale et éducative de radicalisation en amont de l'harponnage, c'est-à-dire auprès de ces hésitants. Ces jeunes fragiles, vulnérables, on peut les appeler comme on veut, en difficulté sociale, en situation de marginalité plus ou moins avancée, pour voir comment on peut travailler auprès de ces jeunes. Ceux qui sont radicalisés, comme on peut dire déchirés, si on prend d'autres termes, c'est compliqué. C'est compliqué de traiter avec eux. Alors il existe des cellules, il existe un nouveau centre qui vient d'être mis en place, expérimental, dans l'Indre-et-Loire. Mais on a tout intérêt pour envisager le futur de travailler en amont, de travailler avec ces jeunes fragiles en situation de vulnérabilité qui ne se projettent plus ou qui ont des difficultés à envisager un avenir serein dans notre belle France.
Puisqu'on réfléchit aussi à l'impact des regards qu'on peut porter sur ces parcours-là, sur ces actes-là, quel est l'impact du fait que la religion et l'islam soient si présents dans le discours global sur ces parcours de vie? C'est pourquoi, puisque vous dites l'un et l'autre, alors vous, Alain, au regard des personnes que vous avez rencontrées, et vous, David Puot, au regard de vos recherches, vous dites que c'est presque négligeable, on va dire, cette part religieuse. Pourquoi est-ce que c'est si prégnant? Quel est l'intérêt de ce discours-là?
En fait, c'est à la fois négligeable parmi la quantité de raisons potentielles de radicalisation. Après, effectivement, ce qui ressort de ce que j'ai pu faire avec tous ces témoins, c'est qu'effectivement, la religion, c'est un territoire identitaire sur lequel tous ces jeunes qui ne se sentent plus français, parce que rejetés par la France, et qui ne se sentent plus non plus appartenir à une communauté qui est celle de leurs parents ou de leurs grands-parents, leur communauté d'origine, donc... pour ne parler que des Maghrébins, Algériens, Marocains, Tunisiens. Donc ils sont ni Français en France. Enfin, ils n'ont pas le sentiment d'être Français en France. Ils ne sont ni Marocains, ni Algériens, ni Tunisiens quand ils retournent là-bas. Et donc, ils sont quoi? Ils sont musulmans. Et donc, ce territoire...
C'est le seul territoire, en fait, qui leur reste.
C'est un territoire identitaire assez fort. Et les psychologues des missions locales que j'ai pu rencontrer me racontaient qu'elles ont étudié les Facebook de tous ces jeunes. Et effectivement, chez beaucoup de jeunes de 15 à 25 ans, la religion est une des thématiques centrales de leur discussion sur ces réseaux sociaux.
David Pivot, sur cette question.
Alors, oui, la question est éminemment complexe, mais moi, ça me rappelle, ça me renvoie à Abdelmalek Sayad, hein, qui parlait de la double absence, d'être personne là-bas et d'être personne ici.
Et qui pensait l'impossible retour, hein, c'est vraiment un chercheur qui a pensé cet entre-deux qui était infernal pour à la fois les immigrés et les fils d'immigrés et les fils de fils d'immigrés.
Et moi, je parle souvent de... j'aime bien la pêche, donc je parle souvent du complexe de la Bernique, au sens où lorsqu'on subit des discriminations, lorsqu'on vit des violences sociales, économiques depuis une ou deux générations, on a besoin de tous être rassurés. Et lorsqu'on est mal à l'aise, lorsqu'on a nos difficultés de reconnaissance, nos difficultés d'estime de soi, on va vers ce qu'on connaît, vers notamment ce qu'on peut appeler communauté, par exemple. Donc la Bernique, au sens de plus on essaye de taper sur la Bernique, plus elle colle au rocher, et plus il est difficile du coup voilà.
Non, mais en même temps, vous dites, on va vers ce qu'on connaît, et ce territoire identitaire, c'est peut-être le seul qu'ils peuvent investir. En même temps, on peut aussi parler de ces jeunes gens qui parfois ne connaissent strictement rien à l'islam, quand ils sont fils d'immigrés et fils de personnes de confession ou de culture musulmane. Mais il y a aussi des Français pour qui ce territoire-là de l'islam est a priori pas celui tout donné, tout évident. Alors pourquoi est-ce qu'il s'en empare?
C'est un chemin, une réponse potentielle, une réponse valable.
Comme il s'emparait d'autre chose, en fait.
Comme il s'emparerait d'autre chose, sauf qu'il s'empare de ça. Parce qu'il n'y a pas forcément, de leur point de vue, ou en fonction de leur parcours de vie, leur parcours psychologique, leur parcours familial, leur lieu de résidence, leur parcours scolaire. Voilà, c'est le chemin, c'est le seul chemin qui s'ouvre à eux, avec des certitudes.
En même temps, il y a quelque chose dans une sociologie des personnes vivant en banlieue, des jeunes gens vivant en banlieue, qui s'emparaient de l'identité justement de racailles, l'identité de jeunes violents de banlieue. Une partie de la sociologie française a pensé la manière dont ils s'emparaient de ce qui leur était donné, dont ils répondaient à ce qu'on attendait d'eux. À savoir, ces jeunes gens, on leur disait que le jeune de banlieue était violent, insolent, dealer de drogue et au mieux joueur de foot, et ils étaient ce qu'on leur proposait d'être. Est-ce que ce petit cartel identitaire, ce petit territoire identitaire, dont ils s'emparent, ces jeunes gens dont on parle aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce qu'on leur met ça sous le nez?
Oui, bah, là, par rapport à la racaille, c'est vrai que le contre-stéréotype, le fait de performer l'image dans les arts ou dans l'attitude, etc., c'est assez connu.
Mais... Est-ce que l'omniprésence de l'islam et de la figure du musulman ou du musulman radicalisé n'est pas un petit territoire identitaire qu'on tend gentiment à des personnes qui n'en auraient pas?
Il faut peut-être un petit peu modérer le propos. Il y a 20 ans, le film La Haine sortait et il y a eu un emballement médiatique autour de ce que c'était que les quartiers, les banlieues. Je me souviens d'un quotidien français qui avait sorti tout un lexique, apprenait à parler le langage des banlieues, ce qui était totalement ridicule. Je suis pas sûr que ce soit un modèle qu'on leur ait brandi sous le nez. Je pense plutôt qu'il y a eu un emballement médiatique, on en a fait une mode, on allait au zoo pour... Voilà, enfin, je veux dire, il y a un phénomène d'entraînement, il y a un phénomène d'image très fort. L'omniprésence des médias, on est dans des quartiers où la seule ouverture sur le monde,
c'est la télé.
C'est la télé et l'internet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Donc, je veux dire, l'affaire du Burkini de cet été en est un bon exemple.
Alors, moi, il y a une des hypothèses que je fais aussi, c'est qu'on est dans ce il y a un renforcement des tensions identitaires depuis une trentaine d'années, que ça soit en France ou même dans les pays européens. On a assisté également au niveau politique à un tournant sécuritaire à la fin des années 90 qui s'est renforcé tout le long des années 2000. On n'en est pas sorti. Donc ce tournant sécuritaire s'est joué également en parallèle de renforcement de tensions entre communautés, de ce que nomme Michel Agier un piège identitaire. Et moi je crois que malheureusement aujourd'hui on parle de questions religieuses, mais comme je le disais tout à l'heure, la question elle est avant tout identitaire, sociale et économique. Lorsque je dis spectre du radical, ce qui m'interroge, moi, c'est que de plus en plus, on parle effectivement de personnes radicalisées qui seraient des femmes, des individus de classe moyenne, des convertis, des adolescents qui n'avaient pas d'histoire auparavant, etc. Ils seraient discrets, on parle de nébuleuses relationnelles terroristes aussi internationales, etc. Mais on l'a tous fait l'expérience, lorsqu'on en parle dans notre milieu familial ou dans un bistrot, finalement tout le monde dit, mais on sait très bien qui c'est. On sait, en gros, le spectre, c'est on ne sait pas qui c'est, on entend régulièrement, mais en fait on sait très bien qui c'est. Et l'image identitaire, ça renvoie toujours à la même histoire, à la cible du musulman jeune des quartiers populaires d'origine culturelle maghrébine ou d'Afrique subsaharienne. Donc moi je pense qu'une des complexités de ce phénomène, de quoi la radicalisation est-elle le nom, c'est qu'elle nous renvoie également à toutes ces questions sociales, économiques, à ce tournant sécuritaire qui ne fait que se renforcer depuis une dizaine d'années. Avec aussi en parallèle un renforcement des thèses culturalistes. Je vous parlerai pas, on va pas parler de la déblaque des bleus en 2010 au niveau du football, les bouquins par exemple de Hugues Lagrange sur le déni des cultures, qui ramène la thèse culturaliste aussi de l'explication culturelle des phénomènes délinquants, voire criminels. Donc, parlons de la question religieuse, ok, mais effectivement, on a affaire également à un renforcement des tensions identitaires, que ça soit d'ailleurs à l'extrême droite également, qui fait que il y a des écarts qui se creusent entre des territoires dans notre cher pays, mais également entre des groupes sociaux.
Donc je vais commencer par l'extrême gauche, donc les profils bleus, HAM, qui correspondent donc à ce qu'on a appelé du pseudo-infra-djihadisme, c'est-à-dire en réalité des profils d'individus qui ne sont absolument pas djihadistes du tout. donc pas radicalisé, si vous voulez. Donc sur ces trois profils, H, qui correspond à l'initiale donc de humanitaire, A, donc pour aventurier, et également donc M pour matrimonial, c'est-à-dire des souhaits de départ pour des motivations matrimoniales. De l'autre côté, donc à l'extrême droite cette fois-ci, ce qu'on a appelé donc la barrette noire, hein, si vous voulez, pour terrorisme. Donc là, il s'agit d'un sous-ensemble, si vous voulez, d'une spécificité qui s'appelle le djihadisme terroriste. Si vous voulez, nous on considère, hein, dans ce profil-là, tous les actes pour faire peur, pour affaiblir le lien social, on considère ça comme du terrorisme. Alors, heureusement, c'est un profil minoritaire. On a volontairement mis un gap, hein, un trou entre le D et le T, si vous voulez, puisque on est en train de penser justement ce passage au terrorisme, hein, au djihadisme terroriste, qui est réellement quelque chose de complexe et de spécifique. Un profil donc à l'horizontale qu'on a appelé les hijristes en vert, donc hijristes pour hijra, véritablement, donc la hijra, hein, l'égir, c'est-à-dire aux origines, hein, la fille du prophète, hein, pour aller se réfugier à Médine en 622. Ce type de profil correspond pour nous davantage à quelque chose qui serait de l'ordre de la radicalisation cultuelle.
C'est finalement un document assez rare, Alain Lefkovitz. C'est un deuxième extrait de la série documentaire dont on parlait tout à l'heure, puisque vous avez réussi à poser vos micros dans une formation très particulière, laquelle ?
Alors c'est une formation donc organisée par le ministère de l'Intérieur et l'association, entre autres, des psychanalystes qui travaillent sur le terrain depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur les phénomènes de radicalisation dans les Alpes-Maritimes. Et c'est vrai qu'il était extrêmement compliqué de suivre ces formations, parce que je pense que au niveau institutionnel, on teste, on cherche, on tâtonne, on ne s'est pas encore donné des réponses aux questions qu'on se pose, puisque pour revenir à ce que disait David Puyot tout à l'heure, au-delà du constat, il y a aussi des réponses institutionnelles qui sont mises en place, mais qui sont des réponses qui sont en total décalage avec le modèle républicain qui domine. Parce que effectivement, on voit bien qu'il y a des soucis au niveau du logement, de la ghettoisation, de l'école. Comme je le disais tout à l'heure, hein, tout un panel de problèmes socio-économiques qui finalement révèlent l'existence dans ce pays de communautés qui ont toujours existé. Mais le modèle républicain ne voulant voir qu'une seule tête, on a mis tous ces problèmes d'abord sous le tapis, et puis surtout, comme c'est des problèmes qui n'existaient pas, on les a pas appelés, on les a pas nommés, et aujourd'hui on se retrouve confronté à des situations de pompiers où faut éteindre les flammes. Alors on va former un certain nombre d'acteurs de terrain, comme ce qu'on vient d'entendre, à savoir des psychanalystes qui vont tenter de profiler chaque djihadiste en puissance. Donc on va faire des espèces de portraits robots qu'on va distribuer dans les missions locales pour dire attention, si vous voyez ce genre d'individu, n'hésitez pas et alerter les autorités compétentes. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça fonctionne ? Je ne crois pas. On fait, vous voyez, les quartiers dédiés dans les prisons, on sait que ça ne fonctionne pas, puisque la contrôleure générale des lieux de privation de liberté a déclaré que c'était pas une bonne solution. Pourtant, ça va se généraliser. Donc, on dit, bah oui, on fait des tests, on essaye, on tâtonne, et en même temps, on impose. Est-ce que c'est efficace ? Je n'en sais rien et je ne crois pas.
Pour vous, c'était une évidence que d'aller voir du côté de la psychanalyse, puisqu'on s'intéresse à la manière dont les sciences humaines et sociales posent des regards sur à la fois le passage à l'acte, mais aussi la prévention de ces passages à l'acte. Il fallait absolument que ce regard-là, psychanalyste ou psychologue, intervienne.
Ah bah oui, c'était fondamental, puisqu'on est sur du processus extrêmement long, qui ne se résout pas en une heure et demie chez le psychologue local tous les mois. Donc c'est un travail de longue haleine, en imaginant que celui qui se suicide ou celui qui va faire un braquage ou celui qui va poser une bombe est au bout d'un long et très long cheminement psychologique. Alors oui, la psychanalyse était indispensable à tenter en tout cas d'expliquer un certain nombre de choses.
Comme on disait tout à l'heure que le déclic après le 13 novembre 2015, c'était de vous demander qu'est-ce qui pouvait pousser ces jeunes gens français à faire ce genre d'acte et à se tuer. Est-ce que vous avez trouvé dans vos échanges avec ces interlocuteurs des réponses qui vous ont permis d'avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, dans votre compréhension ?
Il y a plein de réponses possibles. C'est tout ce qu'on dit depuis le début de l'émission. C'est des frustrations, c'est des troubles identitaires, c'est une violence vécue pendant toute l'enfance, à l'école, dans les quartiers.
Mais ça, là, malheureusement, il y a légion de jeunes gens qui les ont vécues, et pourtant, ce ne sont pas légion de jeunes gens qui passent à l'acte.
Il y a des gens plus ou moins fragiles, il y a des gens plus ou moins réceptifs, il y a des gens qu'on aide plus ou moins, il y a des gens qui sont plus ou moins entourés par la famille, par les amis. Il y a des gens qui... Alors, moi, les personnalités, enfin les personnages que j'ai rencontrés viennent de ce que je disais tout à l'heure un petit peu comme ça, les territoires perdus de la République, mais il faut voir ce que c'est que ces quartiers. C'est des quartiers qu'on voit tous quand on va dans le sud de la France. Alors on voit ces grandes cités à travers les fenêtres de la voiture quand on est sur l'autoroute, mais il faut rentrer dans ces cités pour voir ce que c'est. C'est Sarajevo après la guerre, entre guillemets, mais c'est des quartiers délabrés, c'est des quartiers où il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de gardiens, il n'y a plus de gardiennes, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus d'interlocuteurs. Donc, quand il n'y a plus d'interlocuteurs, que les gens qui ont un minimum d'argent quittent ces quartiers parce qu'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste ? Il reste les gens les plus pauvres, les plus fragiles. Et malheureusement, aujourd'hui, les gens les plus pauvres et les plus fragiles sont de confession, dans ces quartiers-là, en tout cas, de confession musulmane, beaucoup.
Pourquoi malheureusement ?
Parce qu'on les laisse dans ces ghettos et qu'il y a un vrai problème de mixité sociale dans ce pays.
David Puot, sur ce que vous disiez tout à l'heure de la projection de soi en sujet violent, de ce qui fait qu'à un moment donné, de tout ce qu'on vient de décrire et de ce qu'on décrit depuis une demi-heure, il y a une bascule vers la violence ou l'ultra-violence. Ça a sa place dans la formation, par exemple, que vous donnez aujourd'hui à des futurs éducateurs, à des futurs acteurs de terrain dans des missions locales. Vous allez jusqu'à ces échelles-là extrêmement intimes de la construction du sujet, de la construction de l'identité en rapport avec la violence.
Il y a François Dubé dans la fin des années 70, début des années 80 qui parlait du sentiment de rage dans l'ouvrage La Galère. Aujourd'hui, on a des phénomènes au niveau sociologique, au niveau psycho, au niveau anthropo. Il y a eu des multiples ouvrages sur tous ces phénomènes-là, sur les phénomènes de rupture sociale, les phénomènes de désaffiliation, de disqualification, on pourrait prendre plusieurs termes. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est qu'effectivement, depuis 2015... notamment après les événements de janvier, on a reparlé du travail social dans les médias. On a reparlé, je me souviens d'un article de Wissa Kies, qui s'appelle « Privilégions le travail social dans le monde ». C'est pas tous les jours qu'il y a des articles sur le travail social dans le monde. Et au fur et à mesure de moi, on a reparlé du travail social, mais on en a reparlé d'une certaine manière, en termes de traitement et en termes de repérage des signaux faibles d'individus en voie de radicalisation. Et moi, j'en appelle aujourd'hui à travailler avec ces hésitants sur ce qu'est le travail social dans notre pays, qui se transforme de plus en plus, malheureusement, je le déplore, en intervention sociale, c'est-à-dire sur de court terme, avec des financements peu non pérennes, et puis des acteurs peu formés. Le travail social demande du temps, demande un ancrage territorial, demande également un temps d'établissement de liens dans la durée avec une population, ce qui permet ensuite de travailler sur leur parcours, leur trajectoire sociale, et de réaffilier ces personnes petit à petit, entre tous ces acteurs sociaux. Alors, aujourd'hui, on reparle du travail social. Je voulais citer quelques chiffres. Notamment, il y a de multiples initiatives qui se mettent en place sur le terrain. Un des fonds importants aujourd'hui sur cette question de la radicalisation, c'est le fonds interministériel de la prévention de la délinquance. En mars 2015, l'État a ajouté 8,6 millions d'euros à ce fonds. En novembre 2015, fin d'année 2015, 17,7 millions sur un montant global de 69,4 millions. Et puis, depuis mai, on est passé à 69,4 millions à 100 millions d'euros. Et donc, il y a de l'argent.
Avec quelle logique qui prédise à l'action, justement ?
Alors, il y a toujours possibilité d'utiliser des budgets pour faire de l'action prévention sociale et éducative. Mais dans la plupart des situations, cet argent est également effectivement utilisé en termes de projets pour prévenir la radicalisation. Et notamment avec le montage de centres, hein, comme on a pu le voir dernièrement, qui est ouvert là dans l'Indre-Loire. Je vais reprendre le titre exactement. J'ai perdu le titre.
Peut-être pendant que vous retrouvez vos notes, David Puot, Alain Lefkovitch, les différents acteurs des missions locales absolument passionnants qui s'expriment dans cette série documentaire et qui s'expriment si calmement et si précisément et vous ont parlé de leur rapport aux moyens financiers et humains dont ils disposaient pour justement cette action à long terme.
Alors, bien évidemment, hein, c'est le nerf de la guerre. Et la guerre, elle ne va pas durer très longtemps, puisqu'il y a, il y a des coupes budgétaires. Je sais que sur les territoires dans lesquels j'étais, au lendemain des attentats du 13 novembre, les associations, une des principales associations de quartier, a fermé, faute de moyens. Alors, il y a les grandes déclarations. Alors, c'est vrai qu'il y a une colère aussi chez tous ces acteurs de terrain, et notamment dans les missions locales, parce qu'il y a ces grandes déclarations de principe. Et puis après, il y a aussi... cette notion.
Il y a les listes d'attente infinies pour les consultations psy, voilà, il y a les portes fermées des associations.
Parce qu'on est en train aussi, alors à la fois il faut éteindre l'incendie, mais en même temps on est contraint par des lignes budgétaires, et ces lignes budgétaires, il faut les respecter. Donc il y a l'institution, et puis il y a des gens au sein de cette institution qui essayent, malgré la rigidité de l'institution, de faire des choses. Mais c'est extrêmement compliqué. Il y a effectivement un immense décalage, un fossé entre les moyens et les besoins.
Et puis il y a deux types d'actions qui se mettent en place en termes de traitement d'individus en voie de radicalisation signalés ou qui peuvent revenir. Alors là, on parle également du centre de prévention et d'insertion que je cherchais, et de citoyenneté qui est ouvert à Pontourny dans l'Indre-et-Loire. Donc il y a une dizaine de volontaires, jusqu'à 25 pensionnaires qui vont être accueillis en internat. Mais moi, je reste dubitatif sur les effets objectifs de ce type d'institution. En 10 mois... travailler auprès de ces jeunes majeurs, auprès de ces jeunes en voie de radicalisation, mais selon le préfet, qui ont la volonté d'en s'en sortir. Donc là, on est aussi également sur du court terme, avec une logique de rassemblement et qui peut donner également des effets mimétiques entre eux. C'est la limite de ce tel système. Mais lorsque je parlais du travail social sur le terrain, moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a des initiatives, comme par exemple des groupes de parole, où on trouve également des religieux, on trouve des responsables associatifs, on trouve des grands frères de quartier, on trouve également des travailleurs sociaux. Des débats très très virulents par moment, mais qui permettent également de conflictualiser la parole.
Et de rétablir les interlocuteurs dont vous disiez tout à l'heure à la Lefkovitch qu'il n'y en a plus. C'est aussi des endroits où il n'y a plus de parole qui circule.
Il y a très peu de parole, ou alors la parole qui circule est toujours la même. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous parliez des grands frères. C'est très bien les grands frères, mais les grands frères n'ont servi à quoi ? Qu'à cantonner toute une partie de la jeunesse dans la culture hip-hop. Est-ce que c'est ça la vraie culture ? Ne fallait-il pas les emmener aussi à Versailles ou dans les musées ? Mais non, on a acheté des postes et on a dit voilà, la culture c'est le hip-hop, donc vous faites du hip-hop. Je suis pas sûr que ça soit très efficace. Le problème c'est que l'institution met en place un certain nombre de mesures qui s'inscrivent dans le temps très court, comme vous le disiez, alors que, comme on le disait tout à l'heure, on part de très loin avec des phénomènes socio-économiques et psycho-socio-économiques qui trouvent leurs origines dans un temps très très long par rapport aux mesures prises par l'institution.
On va mettre un peu de vraie culture hip-hop, justement.
What they want, huh? This is what it's all about. Wow, time to take affirmative action, son. Cause just don't understand, you know what I mean? Niggas coming sideways, thinking something sweet, man. You know what I mean? Niggas don't understand the four devils. Lust, envy, hate, jealousy. Wicked niggas, man. Yo, sit back, relax, catch a contact, sip your cognac, and let's all wash this money through this laundromat. Sneak attack, a new cast and rap, worth top dollar. In fact, touch minds and I'll react like a rock waller. Who could relate? We play for high stakes at gunpoint, catch them and break, undress them time with tape, no escape. The Corleone, Fettuccine, Capone, roam in your own zone, or get kidnapped and clapped in your dome. We got it sewn, the firm, all the wars unknown. Lower your tone, face it, homicide cases get thrown, aristocrats. Politic and deli with diplomats. See me, I'm unofficial Mac Lex Cooper.
Criminal
black
thoughts in the group wars. My destiny's to be the Newport. A nigga poorly gotta die too short. A nigga's dead on at Kia Heron. They found his head on the couch with his dick in his mouth. I put the hit out. Yo, this move is killer since Bugsy. Bitches love me in Queens where my drugs be. I wear guest jeans and rugbies. Yo, my people from Medina, they will see you when you re-up. Bring your heater or your queen go between us. Real shit, my Desert Eagle got an ill grip. I chill with niggas that hate Dominicans, pots of steel bricks. My red beam made a dread scream and spray the Fed team. Corleone be turning niggas to fiends. UConn's
the ninja black Lexus. Mega the pretty boy with mafia connections. It's the firm, nigga said it. Yo, my mind is seeing through your design like blind fury. I shine. C'est dégueulasse. En fait, de tous les mettre dans, en fait, les mettre dans des cubes, en fait, c'est les mettre à part. Mais en fait, ça a été fait exprès parce qu'apparemment, quand il y avait les immigrés et tout, eh ben, ils avaient construit des. Moi, je trouve ça sympa de construire des trucs pour. Mais ça a été tout le temps fait en dehors de tout ce qui est la ville, tout ce qui est. Où tout se passe en fait. C'est comme Montpellier avec la paillade. Il y a la ville et puis il faut prendre un long périph' pour aller à la paillade. Et pourquoi la paillade, elle serait pas juste à côté du centre-ville? Je sais pas. Les entasser dans des immeubles, il y a un seul ascenseur qui passe pas, ça tire la corde pour remonter les courses et tout. C'est des immeubles de 30 étages, c'est dégueulasse. C'est comme des moutons enfermés dans un enclos, c'est pareil. C'est pareil. Bah, dans les quartiers maintenant, ça rigole plus quoi, c'est armé, c'est. Ça existe plus l'arme blanche, hein. Ouais, c'est un état quoi. J'ai envie de dire, c'est un état, c'est comme l'état islamique, hein. Du jour au lendemain, c'est devenu un grand état. Du jour au lendemain, on va se demander pourquoi. Il n'y a rien pour les jeunes, en fait. Il n'y a rien. Surtout les enfants d'immigrés, je pense. Après, les enfants d'immigrés, franchement, on est rejetés. On est autant français que les Français eux-mêmes. Quoi. Mais en fait, on n'est pas français pour la société française. On n'est pas français.
Finalement, quand j'analyse les premiers pas des jeunes et les premières utopies, elles sont quand même toutes liées à la recherche de fraternité et de solidarité et d'égalité. Et à s'y méprendre, c'est quand même les valeurs de la République. Et les jeunes Français partent chez Daesh pour trouver des valeurs de la République. C'est quand même paradoxal. Évidemment, Daesh a enlevé la liberté. Donc le pari, c'est de dire l'humain n'applique jamais ses principes. Ils vous ont promis l'égalité, la fraternité. En fait, c'est que pour les riches. Vous, ils vous laissent dans vos quartiers délabrés avec une école à deux vitesses, etc. Et on vous prend jamais pour quand vous postulez pour des emplois. Donc on va enlever la liberté. Et si on se soumet à Dieu, on pourra appliquer la fraternité et l'égalité. Et c'est vraiment ça. Je sais que ça paraît très surprenant pour les gens de l'extérieur, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ne croient plus en la politique. Ce sont des jeunes qui ne croient pas que l'humain peut appliquer sa théorie. C'est des jeunes qui ont souffert quand même, même s'ils sont pas d'origine immigrée, du décalage entre la théorie et la pratique jamais reconnue par la République, qui continue à présenter qu'elle applique toujours les droits de l'homme, qu'elle applique toujours l'égalité au lieu de dire c'est un objectif, on fait tout pour. Mais on sait bien qu'il y a des défaillances. Au lieu qu'il y ait cette reconnaissance, c'est sans arrêt cette promesse. C'est tellement violent que finalement, des djihadistes qui arrivent en disant « Nous, avec la soumission à Dieu, on va arriver à ce résultat-là », mais je vous assure que c'est les trois quarts de l'engagement des jeunes.
Ce sont deux extraits de votre série documentaire Alain Lefkovitch qu'on a rapprochés, à la fois la voix de Sherazade, qui est l'une des jeunes filles que vous avez rencontrées, à la fois celle de Dounia Bouzar, qu'on ne présente plus, qui est donc engagée dans toutes ces actions autour de ce qu'on appelle la déradicalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles se répondent. Sherazade dit « au final, en France, nous ne sommes plus français », et Dounia Bouzar dit « en partant, ils vont essayer de faire se rejoindre les paroles et les actes, la théorie et la pratique, et d'essayer de retrouver en action la devise républicaine. En effet, c'est une analyse de ce passage à l'acte et de ces actions qui est assez peu courante.
Bah, c'est assez peu courant, en même temps c'est intéressant parce que quand on écoute tous ces jeunes de ces quartiers difficiles, il y a effectivement une espèce de ressentiment, de frustration, de ne pas appartenir à la communauté nationale, de ne pas être reconnu comme faisant partie entière de cette communauté parce qu'on est musulman, ou parce qu'on porte un voile ou parce qu'on est barbu.
D'être loin de là où tout se passe, quand elle parle de l'implantation
d'être
géographique
loin où tout
des
se
grandes
passe,
cités.
Elle parlait de la paillade, on peut citer plein de quartiers comme ça, dans toutes les agglomérations des grandes villes de France ou des villes moyennes de France, où il faut prendre un périphérique ou un morceau d'autoroute pour aller dans ces quartiers. Donc c'est des quartiers où il y a très peu de transport, c'est des quartiers où il est difficile d'où il est difficile de sortir. On parlait des grands frères tout à l'heure, dans les années 80, on leur a dit, voilà de l'argent, on va monter un certain nombre de structures dans ces quartiers-là, et on leur a dit interdit, surtout, vous calmez la paix, vous obtenez la paix sociale, et ces jeunes, on ne veut pas les voir en centre-ville. Faut pas déranger le bourgeois, faut pas déranger l'ordre social, voilà. Et entre cet ordre social et ces quartiers-là, il y a un tronçon d'autoroute. Alors effectivement, eux aimeraient bien appartenir, aimeraient bien aussi participer à ce projet qui est sur les frontons de nos bâtiments publics, liberté, égalité, fraternité. Le problème, c'est qu'ils n'en ressentent plus, ils ne se sentent plus désirés par ce modèle-là. Donc effectivement, ils vont essayer de, qui est un beau modèle, qui a un bel horizon, bah, ils vont essayer de le chercher ailleurs.
Ça veut dire qu'on pourrait, alors il nous reste très très peu de temps, et je vais lancer une petite bombe pour ce très très peu de temps, mais on pourrait considérer que ces passages à l'acte-là, c'est une forme de récupération de leur puissance d'action, c'est-à-dire on coupe l'herbe sous le pied de la puissance d'action, que ce soit sur le terrain de l'emploi, de la discrimination, de, des ghettos géographiques, des ghettos urbains. D'une certaine manière, ces départs et le fait de se tourner vers des actes violents, ça leur permettrait de récupérer une puissance d'action qui par ailleurs leur est complètement ôtée.
Puissance d'action, je sais pas, mais désir de reconnaissance peut-être, en termes d'estime de soi et de reconnaissance, de projection aussi, de qui suis-je et qu'est-ce que vais-je devenir. Le grand intégrateur, qu'on le veuille ou non, malheureusement, il est en souffrance, hein, c'est le travail, dans notre cher pays toujours. Mais du coup, qui suis-je et qu'est-ce que je vais devenir? Mais moi, j'invite encore à la réponse de, en termes de prévention sociale et éducative auprès de ces jeunes fragiles, hésitants. En fin février, il y avait le responsable de la DGSE, de la DGSI, qui s'en entendait pour dire que la réponse sécuritaire seule ne suffirait pas et donc qu'elle serait partielle, qu'elle ne résoudra pas le phénomène. Donc effectivement, moi j'en appelle à valoriser toutes les stratégies de civilité mises en place dans les quartiers pour également empêcher les velléités de désirs mimétiques d'aller vers des phénomènes de violence, quoi, ou de désirer
être un sujet violent.
Être un sujet violent, merci.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Il est 14h51 sur France Culture. Merci beaucoup d'être avec nous. La rubrique qui vient s'appelle 5 fois et on change complètement de territoire. Pour la rubrique 5 fois, nous entendons chaque semaine la voix d'un invité fil rouge. Il s'empare comme il le souhaite de notre thématique, l'action en l'occurrence cette semaine. Et c'est Patrice Lair qu'a rencontré pour nous Alice Ramon. Alors s'il est aujourd'hui entraîneur de l'équipe de foot féminine du PSG, il fut joueur adolescent. Et la première action de jeu qui a marqué sa mémoire est un pénalty raté.
Première action mémorable, j'étais jeune joueur, je jouais en minime dans un petit club des Côtes d'Armor et on jouait une demi-finale départementale contre une équipe de Léon, banlieue de Dinan, et on avait fait un score de parité et une séance de pénalty pour se départager, se qualifier. Malheureusement, je loupe le pénalty et on est éliminé, on ne peut pas aller en finale, je me retrouve un petit peu seul. Aller au vestiaire et là bon j'ai une personne qui vient me raccompagner au vestiaire qui me console un petit peu en me disant que j'avais certainement été le meilleur joueur du match. C'est dommage que j'aille louper ce penalty, mais j'en ai gardé un grand souvenir parce que c'était un moment fort quand on se retrouve tout seul un petit peu comme ça, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous dire deux trois mots d'encouragement et on est resté amis. Bon, c'était un moment sympa. Dans un moment de déception, ça fait toujours du bien d'avoir un mot de réconfort et ça m'a servi par la suite dans ma carrière d'entraîneur. Parce que quelquefois, c'est un geste loupé malheureusement, alors que le contenu du match avait été intéressant et le joueur avait été décisif.
Et ça change quoi quand on a 13 ans et qu'on se sent responsable d'avoir fait disqualifier toute son équipe ?
On culpabilise au maximum, mais bon après, c'est juste un petit accident de carrière, c'est tout. Mais après, faut être fort. C'est toujours pareil. C'est le mental après qui fait la différence. Je pense qu'après, je me suis vite remis dans le bon sens pour continuer ma petite carrière.
Ça a pas traumatisé totalement la suite.
Non. On oublie vite après. C'est comme ça. Mais sur le moment, on avait besoin de ça parce que c'était fort intérieurement.
Vous pensez que ça arrive à peu près tous les joueurs d'avoir ce genre de moment?
Oui, je pense, ces moments de solitude, tout ça, parce que vous savez, dans le succès, tout le monde est derrière vous, et quand vous êtes dans la défaite, ou sur un geste loupé comme celui-ci, on se retrouve un petit peu seul, parce que les gens vous regardent, et on a l'impression d'avoir fait une catastrophe, alors que c'est qu'un moment de football.
Speaks louder than words. Les actions parlent plus fort que les mots. C'est une proposition de Bachir du duo Toukadim via Twitter et le groupe s'appelle Chocolate Milk. Ce fut évidemment trop court pour la question qui nous occupait aujourd'hui, mais c'est un début, on va dire. La réflexion peut par exemple se continuer en réécoutant votre série documentaire Alain Lefkovitch, LSD, la série documentaire. Perrine Carvon l'après-midi dit que ça rend le documentaire addictif. En l'occurrence, c'est assez vrai. Encore un immense bravo pour cette série. Voilà, j'imagine que chacun aura la liberté et l'envie désormais d'aller réécouter cette série. Et puis on pourra vous lire, début 2017, David Puot, Un monde humain, point d'interrogation.
Un monstre.
Oh, quel lapsus joli, non, quand même.
Joli, oui.
Un monde humain,
un peu de gaieté.
Point d'interrogation. Voilà, c'est mon côté positif, je sais pas. Édition La Découverte, ce sera début 2017. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Est-ce que vous avez reçu, Alain, des réactions après la diffusion de cette série documentaire?
Oui, j'ai eu beaucoup de... Nous avons eu, avec Doria Zénine, la réalisatrice de cette série, beaucoup de réactions, très positives. Puis une qui m'a fait beaucoup rire, d'un auditeur qui me rend responsable d'une éventuelle élection de Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles de 2017. Voilà.
Parce que
je donnais la parole à tous ces gens que cet auditeur considérait comme étant enfermé, inséré dans un discours victimiste. Voilà, alors c'est effectivement un discours qui peut paraître être victimiste, mais à force de refuser d'entendre ce discours, à force de refuser d'entendre les choses...
On ne l'entend pas,
on les définit mal et on trouve de mauvaises solutions.
C'est à réécouter la série documentaire franceculture.fr pour s'abonner au podcast. Merci à tous les deux. Les nouvelles vagues, c'est terminé, mais nous sommes présents sur les réseaux sociaux pour continuer d'échanger avec vous. Twitter, Facebook, mais aussi franceculture.fr. Tous les moyens et supports sont bons pour faire circuler les podcasts. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon à la suggestion musicale. Aux manettes aujourd'hui, le grand Jean Frédéric. Au droit d'auteur, c'était Cyril Zvetojevic. Dans un instant, on retrouve la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange qui commence une nouvelle série littéraire. Moi, je vous retrouve demain, même heure. Très belle journée à tous sur France Culture.